Gustave Flaubert, un secret de Philippe le Prudent, roi d'Espagne. Conte historique. Septembre 1836. S'il en connaissait tout ce qui se passe chez les rois, l'on verrait de bien sales choses et moultes couardises. Rabelais, Gargantua. Le personnage le plus grave se tenait au milieu, assis dans un large fauteuil à bras devant une cheminée où pétillait un feu vif et clair. À ses deux côtés, étaient debout et la tête nue, deux autres hommes qui paraissaient ses confidents, ou du moins ses valets, car à leur air respectueux et soumis, on les aurait pris pour tels. Le plus jeune des deux était vêtu de noir, de la tête aux pieds. Il portait au cou un médaillon où était enfermé un morceau de la vraie croix, et ses doigts étaient couverts de bagues de Saint-Hubert. Il était grand, maigre, avec le front pâle, les cheveux blonds, les joues creuses, et sa figure naturellement triste était encore allongée par une petite royale noire qui faisait un singulier contraste avec l'air recueilli, sournois et dévot qui était empreint sur son visage. Quelque chose de sombre, de doux et de mélancolique à la fois annonçait une âme qui avait souffert, un corps qui s'était usé dans les jeûnes et un esprit qui s'était rapetissé dans les croyances. Cet homme, si petit devant cet autre homme, assis devant lui et se chauffant à son feu, c'était rien moins que Philippe II, roi d'Espagne et de Navarre. Quant au vieillard, c'était Don Olivares, le grand inquisiteur d'Espagne, celui qui avait toute puissance, toute liberté, tout pouvoir. C'était lui qui menait tout à sa guise et à sa fantaisie, se servant de ce monarque comme d'un laquais, le pliant et le repliant de tous les côtés, lui faisant jouer tous les rôles, lui ordonnant de porter telle relique, de dire telle prière, de parler tel langage, et d'épouser la femme qui lui désignait. Il en faisait tout, son ami, son confident, son serviteur, son espion et même son premier bourreau. Mais il arrivait souvent que le chien se révoltait contre son maître et le faisait trembler. Alors c'était terrible, car la colère du roi était implacable et cruelle. Philippe obéissait au grand inquisiteur, non avec la servilité basse et humble de Louis XIII, ployant sous la main de Richelieu. Mais si c'était les mêmes goûts, les mêmes préjugés, les mêmes vues, il faisait plaisir à l'inquisiteur en faisant brûler les hérétiques. Et Philippe était content de voir excommunier les gens qui trouvaient son royaume. Ils se connaissaient mutuellement, se défiaient l'un de l'autre, se craignaient tous deux et même se haïssaient. C'était à qui serait le plus fin, le plus rusé, à qui servirait mieux Dieu, à qui serait le plus féroce, le plus fanatique dans son ministère. Mais il y en avait toujours un qui fléchissait devant l'autre, et c'était la couronne qui s'abaissait devant l'Église. Il y avait déjà longtemps que tous trois étaient silencieux, dont lui, le roi, regardant Don Olivares, qui se chauffait, tandis que les fenêtres ouvertes laissaient apercevoir au loin les clochers aigus de Madrid et les orangers des jardins du roi embaumant l'air de leur doux parfum. « Eh bien, quelle nouvelle ?» dit le roi en interrompant le silence qui semblait lui devenir à charge. « Quelle nouvelle, monseigneur ?» Il s'arrêta en lançant sur l'inquisiteur un regard vif et pénétrant. Don Olivares tira de dedans sa poitrine un portefeuille en maroquin noir avec une croix d'or. « Bien, voilà, sire. »« Et donc, oui, dit vivement le roi, ceci est votre affaire, lisez. » L'homme auquel ces mots s'étaient adressés avait environ la cinquantaine. Il était trapu, court et gras, avait les yeux petits et pleins de feu, la barbe et les cheveux grisonnants, était enveloppé dans une casaque grise bordée d'hermine. De temps en temps, il allait respirer à la fenêtre en grommelant tout bas quelques mots d'impatience. Une fois même, il lui échappa de dire « Monseigneur, du feu en Espagne au mois d'août !»« Assez, dit le roi en colère, Don Olivares, mon maître et le vôtre, le désir. Cette personne est sacrée, puisque telle est sa volonté, respectons-la. Quant à vous, Don Luis Gomez de Silva, vous êtes impertinent. Il y a longtemps que je vous l'ai dit. Sachez-vous taire une autre fois. Autrement, gare à votre tête. Lisez et que ceci soit pour l'avenir. Il prit le portefeuille en tremblant et décacheta la première lettre. Oh, celle-ci, dit-il, est de Monseigneur l'archevêque de Valence. Que Dieu lui prête vie, dit l'inquisiteur. Amen, répondit le roi. Oh, il demanda à sa grâce qu'il a découvert le juif Isaac, qui lui a donné la question, et qui l'a fait brûler vif. Dieu soit loué, dit Philippe en se signant, et en embrassant avec ferveur les pieds d'un crucifix en bois posé sur la cheminée. Ah, voici des nouvelles de Don Juan. Le front du monarque se rembrunit. Oh, Don Juan, que dit-il? Il s'est enfui du couvent de Villa Mayor. Nous saurons le mettre autre part, nos verrous sont solides, nos murs bien cimentés, et tu le fallait même continuer dans lui. Et il a sauté par-dessus les murs, un cheval l'attendait en bas, à ce qu'il paraît, car il a disparu, et on n'a aucune trace de la route qu'il a prise. Ah, messire Don Juan d'Autriche, dit le prince, avec un accent de colère concentré, vous occupez de vous la surveillance royale, mais on saura vous trouver. Vous avez des chevaux pour vous conduire ainsi, ou sauter par-dessus les murs de votre couvent. Nous aurons pour vous une prison, désormais. Si vous prenez fantaisie d'en sortir, le bourreau en ouvrirait la porte. Oh, par la mort Dieu, ajouta-t-il en trépignant, non, il n'en sera pas ainsi, ou la couronne de Charles Quint tomberait de notre tête royale. Sire, dit le grand inquisiteur, sire, écoutez ceci. Tu ne blasphémeras point le nom de mon père, a dit le Christ. Sire, qu'avez-vous fait? Pour cela, vous donnerez à l'église d'El Pilar un calice d'or avec trois flambeaux d'argent. Pardon, mon père, dit le monarque, et il s'inclina. Continuez donc, oui. On dit qu'il est parti en Angleterre et qu'il veut faire la guerre au roi d'Espagne. Au roi d'Espagne, faire la guerre au roi d'Espagne, dit Philippe en souriant. Oh, ceci est pas trop fort, l'audace est trop inouïe. Oh, Don Juan d'Autriche, vous imitez bien votre modèle. Il ne manque plus que vous faire l'assassinat, le rapt et l'adultère, pour être tout à fait Don Juan de Marana. Prenez garde, vous avez déjà la rébellion, l'impiété et l'hérésie. Plus qu'il n'en faut pour faire voler un juif. Vous êtes le fils de mon père, il est vrai, fruit d'un amour illégitime, d'une faute de jeunesse, d'une passion de caserne. Et vous, le pauvre, l'obscur, l'impie, le mécréant, le bâtard, vous voulez attenter à notre couronne sacrée, mais on saura bien se débarrasser de vos mains en faisant tomber la tête. Donc lui, interrompit Olivares, écrivez ceci de la part du roi. Cherchez Don Juan, emparez-vous de sa personne, éloignez-le de son père. Et puis qu'on le mette dans un cachot avec une Bible, ajouta le roi. En ce qui nous sera utile à l'État et en convertissant un pécheur, nous servirons Dieu. Voici encore une lettre, elle parle du père Arsène. Et bien ensuite, il s'ennuie. Il s'ennuie, dites-vous, mais... La fonction céleste qu'il aurait occupé lui est donc à charge. Ben, il a su, par des gens officieux et empressés de lui donner des nouvelles extérieures, que son fils, Don Juan, était l'objet des poursuites de sa grâce. Il en a été vivement peiné. Il a menacé même de reprendre la couronne qu'il a déposée dans vos mains. Oh, déposée, elle y restera, j'espère. Si telle est la volonté de Dieu et de la Sainte Église, notre mère à tous. Et on a même intercepté une de ces lettres qui lui était adressée. La voici. Faut-il la lire? Non, dame. et il saisit vivement le papier que son confident lui présentait. D'une main tremblante, il l'ouvrit précipitamment, mais il s'arrêta tout à coup, car l'idée de Charles Quint le fit trembler et pâlir. Cet homme, en effet, avait eu tant de puissance et de force dans la vie que son nom, déguisé sous celui du cloître, avait encore, en le prononçant, un prestige de gloire antique qui inspirait le respect et l'admiration. Sa personne, jadis parée du manteau royal et maintenant couverte de la robe de bure, faisait encore peur à l'Europe, et sa tête nue et dépouillée de couronne était entourée d'une auréole si brillante que cette auréole éclipsait encore les autres trônes. Philippe craignait la renommée de cet homme. Elle lui était à charge, il la maudissait, car s'il avait un rêve d'ambition, la figure de Charles Quint se présentait à lui aussitôt, comme pour lui saisir sa part d'immortalité. S'il perdait une bataille, il lui semblait entendre la nuit une voix creuse et terrible qui lui disait « Philippe, gare à ma couronne, gare à mon sceptre, tu perdis leur éclat !» S'il gagnait une victoire, la voix revenait encore lui dire un mot, un seul mot, sa vie. Et ce mot-là, c'était une existence de jalousie et d'ambition. Il se hasarda pourtant à braver le nom de son père, mais ce ne fut pas sans peine, et il lut ces mots d'une voix basse, chancelante, comme quelqu'un qui commet un sacrilège. « Mon cher Juano, il y a bien longtemps que je t'ai écrit, n'est-ce pas ? Oh, ne m'accuse pas d'indifférence, de lenteur. Non, non, je l'ai plus, j'étais malade. Voilà une lettre que je t'écris, et c'est peut-être la dernière, et tu vas comprendre cela quand tu sauras dans quel état je suis. Oh, si tu savais comment est maintenant Charles Quint, ton père, tu rirais de pitié sur la nature humaine et tu dirais « Oui, il a bien fait de se démettre du poids d'une couronne, puisque sa tête chancelle. Il a bien fait d'abandonner le sceptre, puisque sa main tremble. Il a bien fait surtout de quitter le manteau royal pour la robe de moine, puisque là, c'est le linceul d'un cadavre vivant. » Car voilà ce que je suis, un cadavre vivant, qui passe la vie à compter l'heure, qui coule, pas assez vite hélas, pour mon ennui et pour mes larmes. Oh, le soir, quand retiré dans ma cellule, je m'abandonne à mes pensées et à mes vastes souvenirs. Bien souvent, je regarde ma lourde épée de bataille, suspendue sur mon lit, et je me dis, oh toi, fidèle compagne de mes victoires et de mes conquêtes, toi qui as brisé tant de couronnes, écrasé tant de trônes, oh, si tu souris à ton pauvre maître, et si par hasard la postérité te regarde d'un œil d'envie, en pensant à celui qui a blanchi ta lame sur les crânes humains, dis-lui, non, détrompe-toi, celui-là n'a point été heureux. Son bonheur, mais c'était un rire forcé, qui sentait le bouffon, que l'on paye l'homme qui joue un rôle. Ce bonheur, j'y pense encore quelquefois, comme un de ces rêves d'enfance, oubliés plus tard, quand par une belle nuit étoilée, je regarde la campagne à travers les barreaux de ma cellule, plongé dans les rêveries du passé. Et là, je me retourne sur mon trône au milieu de mes courtisans, ou bien encore sur ma cavale noire à la bataille de Pavie, et puis je pense à ce que j'étais, à ce que j'ai fait, à ce que j'ai dit dans mes jours de puissance et d'orgueil. Si j'abaisse le regard sur moi-même, je contemple mes mains sillonnées de cicatrices, je mets la main sur mon cœur, je touche à ma barbe blanche et je me dis, je voilà donc ce Charles Quint, roi d'Espagne, empereur d'Autriche, la terreur de François Ier, dont un bras faisait trembler la France et l'autre le monde. Me voilà donc, moi un obscur ignoré dans un couvent, et me prend envie de jeter au loin cette existence d'ignorance et d'ennui pour retourner sur le trône, me lancer sur ma cavale, commander nos braves, reprendre mon épée. J'avance pour la saisir, mes pieds chancellent, mes mains faiblissent, ma tête s'affaisse sur ma poitrine. Je retombe sur mon lit, plus triste et puis désespéré. Un seul souvenir vient charmer ma solitude. C'est le tien, cher Don Juan. Oui, quand je pense à toi, mon cœur se déride, mon âme s'épanouit. Quand un souffle léger de la nuit vient agiter mes vêtements noirs, je me dis, oh, si ce souffle d'air si pur et si frais pouvait par hasard faire onduler la plume blanche de la toque de mon Don Juan. Alors, j'aspire l'air avec amour et avarice. Quand je contemple le ciel si bleu et si calme, je me dis que mon Don Juan peut à cette heure, à cette minute, le contempler aussi en pensant à son père. Eh bien, je contemple le ciel avec extase, en pensant à cette belle tête noire, si pleine de feu et d'énergie, à cette figure rosée, à ces deux grands yeux bleus, qui sont toute ma vie et mon amour, à ces mains que j'embrassais jadis avant qu'un sépulcre ne m'ait séparé du monde. Je pense à Don Juan, et je maudis le sort qui fait que je ne l'embrasse pas. Car toi, Juano, je t'aime autant qu'un cœur d'homme flétri par la royauté peut encore conserver de tendresse et d'amour. Là, si le fils légitime était celui de la femme aimée, tu serais roi d'Espagne. Et si le bâtard était celui de la femme que l'on a serrée dans ses bras avec répugnance et dégoût, parce qu'il fallait un héritier sur le trône, Philippe serait le bâtard maudit que l'on persécute et tyrannise. Adieu, cher Don Juan. Évite les grandeurs que j'en vis encore. Et quant à la conduite que tu dois te dire, je n'ai rien à pardonner, ayant beaucoup vu et n'ayant jamais eu dans mon existence un seul jour de bonheur. Oh, il en viendra hein, bientôt, auquel je me suis déjà préparé depuis longtemps. Tout est prêt. Le cercueil est là, et la tombe attend. Le père Arsène. Le roi pâlit, et chiffonnant dans ses doigts la lettre volée, il s'assit sur une table placée près de la fenêtre, car ses jambes pliaient et une singulière frayeur vint le saisir tout à coup. Alors il pensa à son père, à son vieux père dont il avait surpris les secrets, dont il avait espionné les actions. Il fut surpris d'avoir eu tant d'audace et d'impudeur pour la mémoire d'un homme tel que Charles Quint. Il se représenta alors cette véritable, vénérable tête blanche, avec sa longue barbe, ses vêtements noirs, son aspect saint et vénérable. Il lui semblait voir sa figure indignée, lui dire, comme dans ses songes, « Philippe, qu'as-tu fait ?» Il lui sembla que le passé avait été un songe. Il regardait avec terreur le sceau brisé et la lettre entrouverte. Enfin, il se leva tout à coup, s'élança vers la cheminée, jeta la lettre précipitamment. Il était plus temps, et le papier consumé sautillait sur les tisons blanchis dont il essuyait la cendre. Olivares s'aperçut de l'embarras et du remords de Philippe. Il en sourit intérieurement, baissa la tête sur sa poitrine, se rapprocha du feu et, sans regarder le roi, eh bien, que dit-elle cette lettre? Oh, c'est qu'elle dit, mon père, je ne m'en souviens plus. Oh, si, oh, je me la rappelle, mais mon Dieu, oh, de choses insignifiantes. Je suis désolé de l'avoir machinalement brûlée. Sans ça, je vous la donnerais. Mais parlons de quelque chose qui m'intéresse directement. Qu'allons-nous faire de Don Carlos? Ce qu'il faut en faire, dit Don Rui, et que fait-on des autres? Quels autres, dit l'inquisiteur? Ben, les autres qui sont comme lui, les hérétiques. Oh oui, il faut servir la Sainte Église, dit le roi, et il se signa. Non, non, ce n'est pas parce qu'il est mon fils qu'il faut l'épargner. Dieu saurait un jour me demander le compte de ma large clémence. Oh non, monseigneur Olivares, veillez à ceci, c'est votre mission. Il n'a jamais de chapelet, ne porte aucune relique, oh, sur mon âme, c'est un hérétique. Il prononça encore quelques mots, mais si bas que les deux courtisans ne purent les entendre. J'ai une idée utile à l'État, dit Gomez, cela indiquera sa grâce quand il sera temps. Vous pouvez d'ici, mon père, voir à quoi il s'occupe dans sa chambre. C'est donc lui qui m'a indiqué ce moyen. Je le remercie sincèrement. Il ôta le crucifix, mit le doigt sur un bouton, et tout à coup, une planche se retira, laissant voir une petite porte dont il ôta encore deux plaques de fer, et l'on vit, à l'aide d'une large vitre pratiquée dans la muraille, la chambre de l'infant d'Espagne. Elle était grande et lambrissée, le plafond en était noir, et en général elle avait l'apparence de la vétusté et de la misère. Le lit était couvert avec des rideaux rouges, mais la fenêtre on n'en avait point. Sur les murs, on voyait accrochée une énorme quantité d'armes de toutes espèces, de piques, de sabres tartares, d'épées, de poignards, de flèches et de stylets. La porte était fermée avec une barre de fer, des chaînes et des verrous. On lui dit la demeure d'un homme qui craint quelque trahison. Le personnage qui habitait cet appartement était d'une taille ordinaire. Il avait de jolis cheveux noirs bouclés qui lui tombaient sur les épaules. Ses membres étaient vigoureux et bien proportionnés. Sa taille était celle d'un homme de 20 ans. Et si vous eussiez vu ses joues creuses, ses yeux bleus si tristes et si mélancoliques, ce front chargé de rides, vous eussiez dit « c'est un vieillard ». Il y avait dans son regard tant de tristesse et d'amertume. Son front était si pâle et sillonné de tant de rides prématurées que l'on voyait sans peine que cet homme avait souffert des douleurs atroces et inouïes. Son embonpoint ne lui donnait pas un air de santé, et sur ses joues boursouflées, on voyait d'une pâleur mate et livide. Quand il se levait, on voyait qu'il boitait du pied gauche. Du reste, il était gracieux dans ses manières, et jusqu'en ses moindres gestes, la dignité royale brillait de tout son éclat. Sa personne seule inspirait l'attachement et l'intérêt. Cette belle tête, noire et pâle, cette figure triste et douce, indiquait une de ces âmes si pleines de passion, si puissantes de sentiments, qu'elles se dilatent, se crèvent et s'abîment, ne pouvant contenir tout ce qu'elles recèlent. C'était une de ces lames qui usent le fourreau avant qu'elle ne se rouille. Il paraissait triste et soucieux. Se promenait à grands pas dans son appartement, les bras croisés et la tête baissée sur la poitrine. De sa main droite, il portait un poignard. Enfin, au bout de quelque temps, il s'assit comme épuisé d'un cauchemar accablant. Puis, mettant le coude sur la table, il regarda sa lame de Tolède. Un sourire amer vint dérider ses lèvres, sèches et blanches. Son front rayonna d'espérance et il dit: « Oh, ma pauvre amie, tu me rendrais un bien grand service, et bientôt... » Puis il tressaillit tout à coup, se retourna brusquement et regarda derrière lui. Mais il ne vit rien, c'était une mouche qui bourdonnait sur les carreaux. Le même bruit se renouvela bientôt. Ce n'était plus une illusion. Il entendit distinctement des voix qui parlaient. Et ensuite, comme ces sons vagues et confus, qui murmure dans les rêves. Il se leva en frappant du pied de colère et d'impatience. Une planche aussitôt glissa dans une coulisse. Une porte se referma et une voix dit: « Vous l'avez vu, monseigneur ?» Cette voix, c'était celle de Philippe. Carlos retomba sur son fauteuil, plus pâle et plus colère. « Toujours lui, dit-il entre ses dents, toujours cet homme, écoutant mes paroles et puis en mes gestes, tâchant de deviner les sentiments qui battent dans mon cœur, les pensées qui passent sous mon front, toujours là, assis à mes côtés, debout derrière moi, caché sous un lambris, espionnant à une porte, toujours là comme un mauvais génie, s'opposant à mon bonheur, me ravissant ma femme, m'ôtant la liberté, m'emprisonnant dans son palais. Je ne pourrais pas, dans ma furieuse et jalouse haine, je ne pourrais pas pleurer, maudire, me venger. Non, c'est mon père, et c'est le roi. faut supporter ses coups, recevoir tous ses affronts, accepter tous ses outrages. Ici, il s'arrêta, des larmes grossissaient sa voix. Il serra si fort la lame de son poignard qu'il la brisa comme du verre. Et puis, se briser ainsi, homme sans cœur et sans pitié, ajouta-t-il. Je l'aimais tant, cette femme. Ses joues étaient rouges et brûlantes, des larmes grosses et pénibles roulaient puis venaient mourir sur ses lèvres. Non, je la verrai encore, dit-il, m'égorgé entre ses bras, dit-il, en ôtant les verrous de la porte. Il sortit précipitamment. Le manuscrit indique chapitre 1, mais s'il y a d'autres chapitres, ils ne sont pas connus.